un Français en Corée.
Nous sommes bien en Corée, hein, avec Eric. Bonjour.
Bonjour.
La semaine dernière, même si j'étais en vacances, je t'ai écouté.
Ah.
Hein, tu as parlé du voyage en Corée.
Pas exactement, je suis
au Japon. Au Japon, pardon. Bon, moi, je suis devant vous. Mm-hmm. Donc, pour vous soutenir pour cette chronique.
Je t'en suis très reconnaissant. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est de retour en Corée, et bien en Corée. Et on va parler du calendrier pour parler d'un thème que je crois qu'on n'avait jamais abordé dans cette chronique, c'est les religions en Corée.
Oh.
Ben oui, on va être un peu sérieux, je ne vous pas trop, je vous rassure. Alors, pourquoi je dis profiter du calendrier? Parce que lundi dernier, donc le 12 mai, c'était l'anniversaire du Bouddha. Et oui, le Bouddha a son anniversaire comme tout le monde. Et comme Noël, eh bien c'est un jour férié en Corée du Sud. Alors, en fait, en termes vraiment historiques, on n'est pas vraiment tout à fait sûr quand le Bouddha est né. C'est un sujet de controverse entre historiens. On pense qu'il est né vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais quand même, officiellement, eh bien, lundi, donc, c'était le 2552e anniversaire du Bouddha. Déjà, il ne les fait pas, hein.
Ah, oui.
Quand j'aurai 2552 ans, j'espère que je regarde ça. Bon. Alors, comme toutes les villes sud-coréennes, eh bien, Séoul était tout décoré à cette occasion avec des lanternes en papier multicolore en forme de lotus. Alors, c'est vraiment joli, il y avait toutes les couleurs, vert, rouge, jaune. Et surtout, la nuit, c'est très chouette quand elles sont éclairées. C'est très très beau. Alors il y avait plein de manifestations, manifestations au sens culturel, religieux, de processions, etc. Alors par exemple, moi je suis allé au principal temple bouddhiste de Séoul, le Jogesa, qui est en plein centre-ville. Et c'était vraiment très chouette, c'est très sympa. J'étais déjà allé, mais là c'était très festif. Alors les portes du temple étaient ouvertes, il y a trois magnifiques, immenses bouddhas dorés à l'intérieur, c'est assez impressionnant. Et devant le temple, il y avait des grands auvents. Alors il y avait évidemment plein de lanternes, il y avait des gens assis, il y avait des danses traditionnelles, enfin, c'était vraiment sympa, il y avait plein de monde d'ailleurs, y compris plein de gens qui ne sont pas bouddhistes du tout, mais qui étaient là pour faire la fête, parce que en fait en Corée, l'anniversaire du Bouddha, c'est un peu une fête pour tout le monde. Et c'est très agréable, et d'ailleurs ça reflète assez bien l'un des aspects peut-être les plus intéressants et pas forcément les plus connus de la Corée du Sud. C'est que, alors même si on ne peut pas encore vraiment dire que ce soit une société multiculturelle, pour le coup c'est vraiment une société multiconfessionnelle avec donc plusieurs religions différentes, et puis aussi pas mal de gens qui disent qu'ils n'ont pas de religion, et tout ça cohabite très très bien ensemble en fait. Alors bon, pour être juste, c'est vrai que ça n'a pas toujours été tout à fait comme ça. Hein. Dans l'histoire de la Corée, il y a eu des phases de persécution, au moins de répression religieuse par exemple, à la fin du 14e au début du 15e siècle, au début de la dynastie Joseon, qui avait adopté le confucianisme comme idéologie officielle, comme idéologie d'État, il y a eu une phase de répression contre le bouddhisme. Et au 19e siècle, il y a eu des persécutions contre les missionnaires catholiques, même si ça n'a pas empêché le catholicisme, et plus tard encore plus d'ailleurs le protestantisme, de se répandre comme une traînée de poudre. On va en reparler dans un instant. Alors avec tout ça, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, bon, comme je disais, il y a une très grande diversité. Selon les statistiques officielles du gouvernement sud-coréen, selon des chiffres qui datent de 2005, alors déjà, il y a à peu près 46% des Coréens qui ne professent aucune religion, donc qui disent qu'ils ne sont pas croyants. Et pour les autres, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser vu d'Europe ou d'Afrique, en fait, la première religion en Corée du Sud, eh bien, ce n'est pas le bouddhisme, c'est le christianisme. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, on va revenir dans un instant, mais quand même. Et d'ailleurs, on le sait assez peu, mais la Corée du Sud, en fait, c'est le deuxième pays chrétien d'Asie, derrière les Philippines. Et effectivement, il y a, d'après ces chiffres, 29,3% de chrétiens, alors qu'ils se divisent eux-mêmes en 18,3% de protestants et 10,9% de catholiques. Alors, en fait, le christianisme a été introduit en Corée par des missionnaires étrangers au 19e siècle, mais ça a commencé tout à la fin du 18e siècle. Donc d'abord le catholicisme, et puis après, à partir des années 1880, il y a eu le protestantisme qui a été apporté essentiellement par des missionnaires américains. Ça se reflète d'ailleurs aujourd'hui parce que dans beaucoup de cas, les églises protestantes sud-coréennes sont un peu organisées comme certaines des églises protestantes américaines les plus radicales, les plus dures, c'est-à-dire c'est assez dogmatique et puis il y a beaucoup question d'argent. Et puisqu'on parle du protestantisme, aujourd'hui l'élève a presque rattrapé le maître, puisqu'il y a plein de missionnaires protestants qui courent à l'étranger. En fait, la Corée du Sud est le deuxième pays exportateur de missionnaires protestants, derrière les États-Unis, justement. Et puis donc, il y a 22,8% de bouddhistes. Alors, le bouddhisme a été introduit en Corée entre le 4e et le 7e siècle après Jésus-Christ. Alors, je disais, il y a plus de chrétiens que de bouddhistes. D'ailleurs, l'actuel président sud-coréen, Lee Myung-bak, est protestant. Ses deux prédécesseurs étaient catholiques. Mais cela dit, si on fait la distinction entre catholiques et protestants, là, c'est quand même les bouddhistes qui arrivent en premier. Et pour le reste, il y a un peu de tout. Il y a, par exemple, il y a le chamanisme qui est encore très vivant, mais qui se superpose souvent à d'autres fois, à d'autres religions. Il y a aussi des sectes, par exemple, la célèbre secte Moon. Mais, alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, alors, c'est moins vrai pour les chrétiens, mais quand même, souvent, les barrières entre les religions sont assez floues. Par exemple, on a très souvent des bouddhistes qui vont aussi participer au culte des ancêtres confucianistes, et qui, à part ça, vont aussi aller consulter une chamane et faire donc un rite chamanique, un goutte. Et puis, je crois que c'est pas rare que dans une même famille, il y ait des gens aussi de la foi différente, de religions différentes.
Oui, bien sûr, on pourra la liberté de la religion, je dirais ça. Donc, par exemple, dans ma famille, ma mère était bouddhiste et ma sœur protestante. Moi, je n'ai pas de religion pour l'instant.
Pour la famille, pour le temps.
En te voyant un peu religieux après aller là-bas au temple Chungbo, tout d'un coup, tu es devenu un peu serein et sain.
J'ai presque autant de ventre que le Bouddha, donc c'est
déjà vrai. Les oreilles se sont allongées.
T'as vu aussi. Et puis,
et quand même, on a tendance à être influencé par la religion des parents, mais c'est pas forcément c'est le cas.
Non.
Donc, on a en toute liberté.
Je crois qu'il y a des fils qui vont souvent à l'église protestante aussi. Hein.
Ouais, ça, ils ont un autre objectif ultime, à la rencontre des
Sinon, je voulais aussi ajouter une religion qui vaut quand même qu'elle soit citée, c'est les musulmans. Il y a des Coréens, je ne parle pas des immigrés en Corée qui sont musulmans, mais je parle bien des musulmans, des Coréens qui sont convertis au
à l'islam. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Tout à fait.
Et alors donc voilà, donc tout ça, donc vous voyez, c'est un peu la grande cohabitation, ce qui est très bien d'ailleurs. Et en fait, c'est peut-être parce que, si on regarde bien, en fait, il y a une spiritualité qui unit vraiment les Sud-Coréens, un peu au-dessus de ça, quelle que soit leur religion par ailleurs, eh bien, c'est le confucianisme, dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Pas le confucianisme comme doctrine, comme culte organisé, comme religion, si vous voulez, ça, en fait, ça ne concerne plus qu'à tout petit nombre de personnes, mais le confucianisme comme éthique, comme morale, et alors ça imprègne encore très, très fortement la société sud-coréenne, ça touche vraiment à tous les aspects de la vie. Hein. Alors, on peut citer quelques grands principes, un peu, ça sera un peu empirique comme ça. Alors, d'abord, il y a un très, très fort sens de la hiérarchie. Hein. Très souvent, la hiérarchie, les ordres qui viennent d'en haut, ça ne se discute pas, précisément parce que ça vient d'en haut, même si éventuellement ça peut être éminemment discutable, mais donc ça c'est quelque chose, il suffit de travailler dans une entreprise coréenne, par exemple, pour s'en rendre compte très vite. Un autre grand principe, c'est le culte des ancêtres, et puis de manière générale, le très grand respect qu'on a pour les personnes âgées. Alors ici, l'âge joue vraiment un rôle essentiel, hein, le plus âgé a droit, par définition, au respect, et à être obéi, et de manière générale, c'est toujours le plus âgé qui a raison. Et puis, alors même si c'est un peu en train d'évoluer quand même, mais la prépondérance de l'homme sur la femme, traditionnellement, la Corée est une société très nettement patriarcale, et même si ça change, il y a encore beaucoup d'inégalités. Et tout ça, peut-être un tout petit peu moins de dernier principe, c'est vraiment des valeurs auxquelles pratiquement tous les Coréens adhèrent très fortement. Et donc, ce que je disais, c'est peut-être une des raisons de cette cohabitation harmonieuse entre les religions, c'est qu'en fait, quelle que soit leur religion, fondamentalement, sur ce qui compte vraiment, ils sont tous d'accord, en fait.
D'accord. J'aimerais rajouter quand même quelque chose sur le confucianisme. C'est que effectivement, on doit normalement obéir à celui qui est au-dessus de nous dans la hiérarchie, que ce soit par l'âge, etc., au statut social. Mais en même temps, il y a un retour
d'ascenseur. Bien sûr.
C'est-à-dire que là, normalement,
bien sûr,
la personne qui est au-dessus doit...
Elle a des responsabilités,
elle a des responsabilités
envers les plus
morales,
jeunes,
les subordonnés. Et c'est vrai que cet aspect, en général, est un petit peu oublié par ceux qui sont à des postes de responsabilité, par le fait que la Corée, malheureusement, s'est retrouvée dans une situation où toute la noblesse s'est retrouvée complètement décimée par le Japon, et c'est parfois des hommes qui n'avaient, des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'éducation qui se sont retrouvés au sommet de la hiérarchie.
Et oublié, oui ou non, parce que pour certaines choses dans la vie quotidienne, ça se retrouve. Par exemple, donc le chef, on ne discute pas ses ordres, mais par exemple, si on va au restaurant avec lui, c'est le chef, c'est le plus âgé souvent qui va payer, ça va de soi. Et c'est un peu cette idée aussi, ce que tu disais, c'est-à-dire que...
Exactement, mais par exemple dans une société, dans une entreprise où il y a justement un travail, normalement le chef quand même doit être à l'écoute de ses subordonnés,
ça malheureusement
ça dépend, ou plus trop, voilà, on ne retrouve plus trop, ouais,
tout à fait.
Bon, c'est un sujet-là qu'on peut aborder pour une autre chronique, bon, le temps passe, en tout cas, pour la première fois que...
Parce que c'est elle la chef, hein.
Non, parce que tu es très fort en calcul ce samedi-là, parce que pour les statistiques, bon, pour la comparaison et le pourcentage vers les gens différents.
C'est le gouvernement sécurité qui a fait tout le travail à ma place. Hein, c'est...
Bon, mais continue d'être très sage, très serein, très un peu...
Très bien.
Merci beaucoup.
Allez, merci, à la semaine prochaine. Au revoir.
Retrouvez toute l'actualité de toute la Corée sur notre site internet http://world.kbs.